On va lire un petit peu le texte, donc qui est à la diapositive numéro 7, cette partie difficile. Donc, ligne 70. Voyons à présent comment il faut diviser le monde intelligible. Comment ? En deux parts dont l'âme n'obtient la première qu'en se servant des données du monde visible que nous venons de diviser comme d'autant d'images en partant de certaines hypothèses, non pour remonter au principe, mais pour descendre à la conclusion. Tandis que pour obtenir la seconde, elle va de l'hypothèse jusqu'au principe qui n'a besoin d'aucune hypothèse sans faire aucun usage des images, comme dans le premier cas et en procédant uniquement des idées considérées en elles-mêmes. Allez à présent à la diapositive numéro 8. J'ai répondu de manière assez précise aux questions G et H, histoire que vous ayez un support écrit par rapport à l'explication de ce passage difficile. Donc, ligne 72 à 78, je vous demandais... alors là, je vous dis que c'est un passage difficile et je vous demandais... Que doit utiliser la première forme d'intelligence dont la deuxième n'a pas besoin? Quel est le but du deuxième type d'intelligence? À quoi permet-elle d'accéder? Donc, en effet, dans ces lignes-là, vous avez la distinction entre les deux types d'intelligence. La première forme d'intelligence qui est hypothético-déductive, donc qui repose sur un raisonnement qui va du général au particulier, donc il repose sur la démonstration. Mais il s'appuie en partie, au moins, sur le visible, sur l'expérience. Et c'est ce que j'ai indiqué en jaune. Il n'y a pas de rupture totale entre le sensible et l'intelligible. La première forme de connaissance intelligible utilise des choses sensibles comme image de l'intelligible. Et là, je vais vous prendre un exemple mathématique. Parce qu'en fait, quand on est dans cette première forme d'intelligence, ça correspond plus particulièrement à la discipline mathématique. Donc, pour voir ce lien entre le visible et l'intelligible, je pars de l'idée de triangle que je peux tracer. Je peux tracer un triangle qui, cependant, est un être intelligible. Et pour savoir, par exemple, si un triangle auquel je pense est rectangle, je peux le tracer sur une feuille et utiliser mon équerre pour vérifier qu'il y a bien un angle droit. Mais cependant, je peux aussi faire cette vérification par le théorème de Pythagore qui est une hypothèse. Une hypothèse, c'est... Alors, ça vient de thèse. Une thèse, c'est le fait d'affirmer quelque chose, de poser quelque chose. Et hypo, ça veut dire avant, en dessous. Donc, quand je fais une hypothèse... J'avance une thèse avant de la vérifier. Prenons un exemple scientifique, l'affaire de l'hydroxychloroquine. On peut faire l'hypothèse que l'hydroxychloroquine lutte contre le coronavirus. Et en partant de cette hypothèse, on va établir un protocole de vérification scientifique à base d'expérience, en l'occurrence. Et au bout de ce protocole expérimental, on pourra conclure si l'hypothèse était valide ou pas. Et là, on a véritablement adopté une méthode scientifique. On est véritablement du côté de la science. Et par rapport à notre théorème de Pythagore, eh bien, il se trouve que ce théorème, cette idée, cette hypothèse qui a germé dans l'esprit de Pythagore, elle se vérifie quel que soit le triangle que j'analyse. Si la somme des carrés des deux plus petits côtés est égale au carré de l'hypoténuse, à ce moment-là, les triangles sont rectangles et si ce n'est pas le cas, les triangles ne sont pas rectangles, ils n'ont pas d'angle droit. Et ça se vérifie systématiquement. Par contre, ça ne se passe pas du tout comme ça pour le deuxième type d'intelligence. Ce deuxième type d'intelligence ne passe pas par le raisonnement hypothético-déductif et la démonstration. Il fonctionne autrement et contrairement au premier type d'intelligence qui peut s'appuyer sur le sensible d'une manière extrêmement cadrée, comme on l'a vu, eh bien, ce deuxième type d'intelligence, en fait, lui, il va au contraire se détourner au maximum du sensible parce que son but, ça n'est pas d'aller de l'hypothèse, donc de l'idée que j'ai au visible, au plus particulier, mais c'est de remonter vers le plus général. Je m'explique un petit peu mieux. On a vu que dans le cas de mon théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore, c'est une thèse que je fais à propos des triangles en général. Et je vais, grâce à ce théorème, pouvoir dire si tel ou tel triangle particulier est rectangle ou pas. Je vais donc du général au plus particulier. Et je ne vais pas du général au plus général encore, jusqu'à aller au super général qu'on appelle l'universel. Là, je vous invite à revoir le repère dans le dossier Notion Repère Méthode, le gros repère universel, général, particulier, singulier. Donc, ça, c'est pour mes mathématiques et c'est pour mes sciences expérimentales aussi, éventuellement, la physique, etc. Je vais donc du général au particulier. Dans le cas de la deuxième forme d'intelligence, qui est l'intelligence philosophique des choses et qui passe par la dialectique, on va du général au plus général encore en essayant d'aller comme ça jusqu'à l'universel. Et cet universel, ce sera, enfin c'est dans le texte, ce que Socrate appelle le premier principe. Je vous donne un exemple dans ma réponse de la diapo numéro 8. C'est un exemple tiré de l'Hippias majeur. Dans ce dialogue de Platon, à un moment donné, se pose la question de savoir ce que c'est que la beauté ou ce que c'est que le beau. Et comme très souvent les interlocuteurs de Socrate, quand Socrate demande qu'est-ce que le beau ou qu'est-ce que le courage, que font-ils? Eh bien, ils donnent un exemple. Le beau, eh bien, c'est une belle femme ou un bel homme ou une belle marmite, là, en l'occurrence dans l'Hippias, ou la beauté, c'est un coucher de soleil. Là, je ne définis pas ce que c'est que la beauté, je donne un exemple de choses belles. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire en philosophie pour avoir une connaissance de l'idée du beau ou de l'idée de beauté. Pour connaître l'idée de beauté, au contraire, je dois laisser de côté mes représentations particulières de la beauté, mes exemples de beauté, et au contraire, je vais essayer de voir à quelle catégorie plus générale, de quelle idée plus générale participe la beauté. Donc je vais faire des associations avec d'autres types d'idées. Et si je vais jusqu'au bout de mon association et de ma remontée d'idée en idée, peut-être que je vais accéder à ce dont parle Socrate à la ligne 76, c'est-à-dire le principe qui n'a besoin d'aucune hypothèse, autrement dit le premier principe. Regardez à la diapo numéro 9, c'est ma question H, ligne 76, le principe qui n'a besoin d'aucune hypothèse. Cette expression est une périphrase pour parler du roi du monde intelligible, déjà évoqué. Qui est-il? Eh bien, il s'agit du bien, le premier principe. Ce à quoi je vais remonter en allant d'idée en idée, ça va être l'idée du bien qui est productrice de toutes les autres idées et auxquelles toutes les autres idées participent. Alors, on va continuer à répondre aux questions I et J et ensuite, je vais vous proposer de relire toute cette partie pour voir si vous comprenez mieux. La question I, ligne 80 à 88. À quelle discipline que vous connaissez bien correspond ce premier mode d'intelligence et comment appelle-t-on le raisonnement typique de cette discipline qui part d'hypothèses pour parvenir à une conclusion? Donc, on l'a déjà dit, c'est les mathématiques qui correspondent au premier mode d'intelligence et le raisonnement typique, c'est la démonstration. Je vous donne encore une fois l'exemple que je file sur cette question de la démonstration, à savoir l'application du théorème de Pythagore pour définir si un triangle est rectangle. Question J, ligne 89 à 91, pourquoi les figures visibles auxquelles recourent les géomètres ne sont point à elles qu'ils pensent? Donnez un exemple simple tiré de votre expérience de la géométrie. Donc là, je reprends mon exemple de triangle. Quand je cherche à savoir si un triangle et rectangle, par exemple mon triangle de 3, 4 et 5 cm de côté, ce triangle, je ne l'ai pas en face de moi. J'y pense, je le possède en idée. C'est une idée, c'est un être abstrait. Éventuellement, je peux le tracer, mais je pourrais ne jamais le tracer en fait. Et même si je le trace, en fait, je vais tracer une image de ce triangle qui sera approchante parce qu'on ne fait jamais des triangles parfaits. Il y a toujours des petites imperfections liées à la taille de notre crayon, par exemple. Le triangle parfait auquel je pense, ce n'est pas du tout le triangle que je vais tracer. C'est l'idée de ce triangle. Donc, je vous propose maintenant de revenir à la diapo numéro 7 avec le texte. Alors, on en était à ce moment où Socrate avait distingué les deux intelligences et ligne 79, réplique de Glaucon, je ne comprends pas bien ce que tu dis. En effet, il est comme nous, hein, Glaucon, il est face à quelque chose de difficile. Donc, Socrate va essayer de faire preuve de pédagogie pour lui expliquer la différence entre les deux modes d'intelligence. Ligne 80 donc. Patience, tu le comprendras mieux après ce que je vais dire. Tu n'ignores pas, je pense, que les géomètres et les arithméticiens supposent deux sortes de nombres, l'un pair, l'autre impair. Les figures, trois espèces d'angles et ainsi du reste, selon la démonstration qu'ils cherchent. Que ces hypothèses, une fois établies, ils les regardent comme autant de vérités que tout le monde peut reconnaître et n'en rendent compte ni à eux-mêmes ni aux autres. Qu'enfin, partant de ces hypothèses, ils descendent par une chaîne non interrompue de proposition en proposition jusqu'à la conclusion qu'ils avaient dessein de démontrer. Pour cela, je le sais parfaitement. Nous sommes à la ligne 88, donc dans ce paragraphe, il s'agissait de définir la méthode mathématique, donc qui pose des hypothèses sur les figures, les nombres, les triangles, et qui ensuite déduit des conclusions sur des cas particuliers, des résolutions de problèmes, par exemple. On continue à cette fameuse ligne 89. Par conséquent, tu sais aussi qu'ils se servent de figures visibles et qu'ils raisonnent sur ces figures, quoique ce ne soit point à elles qu'ils pensent, mais à d'autres figures représentées par celles-là. Par exemple, leur raisonnement ne porte pas sur le carré, ni sur la diagonale telle qu'ils les tracent, mais sur le carré tel qu'il est en lui-même avec sa diagonale. J'en dis autant de toutes sortes de formes qu'ils représentent, soit en relief, soit par le dessin, et qui ont aussi leurs images, soit dans l'ombre, soit dans le reflet des eaux. Les géomètres les emploient comme autant d'images, et sans considérer autre chose que ces autres figures dont j'ai parlé, qu'on ne peut saisir que par la pensée. Alors, je fais une petite pause ici. Le but de ce paragraphe-là, c'est de montrer le lien entre cette discipline mathématique et l'utilisation des figures visibles et l'utilisation du monde sensible, donc le lien entre l'intelligence et les sens ici, entre l'intelligible et le sensible. La géométrie utilise bien des images, des idées sur lesquelles elle travaille. Continuons la lecture, on est à la ligne 98. Tu dis vrai. Ces figures, j'ai dû les ranger parmi les choses intelligibles, et je disais que, pour les obtenir, l'âme est contrainte de se servir d'hypothèses, non pour aller jusqu'au premier principe, car elle ne peut remonter au-delà de ces hypothèses, mais elle emploie les images qui lui sont fournies par les objets terrestres et sensibles, en choisissant toutefois parmi ces images celles qui, relativement à d'autres, sont regardées et estimées comme ayant plus de netteté. Je conçois que tu parles de ce qui se fait dans la géométrie et les autres sciences de cette nature. Ce paragraphe-ci, il résume ce qui a été dit dans les deux paragraphes précédents. Alors, quand je parle de paragraphe, c'est les répliques de Socrate, hein. J'enlève les répliques de Glaucon, qui n'apportent pas d'éléments. Donc, résumé, les objets de la géométrie et des sciences mathématiques, ce sont des choses intelligibles. Mais pour connaître ces choses intelligibles, les mathématiciens ne font que poser des hypothèses et ensuite ils utilisent ces hypothèses sur des cas particuliers et ça vérifie en quelque sorte bien ces hypothèses. Par contre, ils ne sont pas capables d'expliquer d'où viennent ces hypothèses. Ils ne sont pas capables de remonter au principe de ces hypothèses. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre la différence avec la deuxième forme d'intelligence. Je vous propose à présent de passer à la diapo 10, c'est la suite du texte, et justement, c'est là que Socrate aborde la deuxième forme d'intelligence, et on va donc lire ce passage. Ligne 107. Conçois à présent ce que j'entends par la seconde division des choses intelligibles. Ce sont celles que l'âme saisit immédiatement par la dialectique en faisant des hypothèses qu'elle regarde comme telles et non comme des principes et qui lui servent de degré et de point d'appui pour s'élever jusqu'à un premier principe qui n'admet plus d'hypothèse. Elle saisit ce principe et s'attachant à toutes les conséquences qui en dépendent, elle descend de là jusqu'à la dernière conclusion repoussant toute donnée sensible pour s'appuyer uniquement sur des idées pures par lesquelles sa démonstration commence, procède et se termine. Regardons la question que je vous posais à propos de ces lignes 107 à 114. Un petit jeu des différences. Alors il s'agissait de comparer ce qui est dit là de la deuxième forme d'intelligence, qui est une intelligence pure, qui est une intelligence qui passe par la dialectique, et donc de la comparer avec la première forme d'intelligence mathématique. Donc le but était de déterminer les différences. Pour que ce soit plus facile à suivre, je vous ai mis en jaune ces différences. Alors, diapo 11, la première différence, c'est que cette intelligence pure est immédiate, alors que la connaissance raisonnée se fait par l'intermédiaire du raisonnement et du recours au sensible. Si vous regardez dans le texte, donc c'est à la ligne 108, l'âme saisit immédiatement par la dialectique. La dialectique ici, c'est une méthode, une façon de procéder de l'intelligence qui s'oppose à la démonstration. La dialectique, elle ne démontre rien puisqu'elle elle ne va pas dans le même sens que la démonstration. Je vous rappelle, ça c'est vraiment important, la démonstration, ça va de l'universel au particulier. Alors que là, le but c'est de remonter vers le plus universel. Donc, comment est-ce que procède la dialectique? Ben, elle procède par une espèce de, je dirais, d'association d'idées qui se fait d'une manière pour laquelle il n'y a pas vraiment de recette. L'intelligence dialectique, c'est une capacité de l'esprit, de la même manière que le raisonnement est une capacité de l'esprit et on l'a plus ou moins développée en fonction de son intelligence peut-être naturelle, mais aussi en fonction de l'exercice. Donc évidemment, plus on va s'exercer à la dialectique et donc en fait à la philosophie, plus on va développer cette capacité dialectique d'associer de manière adéquate les idées pour pouvoir remonter d'idée en idée jusqu'au plus universel en fait. C'est la dialectique, c'est ce qui nous permet d'élever notre niveau d'abstraction. Et cette capacité à associer comme ça les idées, c'est une saisie intuitive de l'esprit. Ça ne passe pas vraiment par un raisonnement. Vous verrez que j'ai essayé de montrer un petit exemple de dialectique par la suite. Je reviens pour le moment à mes différences, à mon jeu des différences. Donc l'intelligence pure, elle est immédiate, elle ne recourt pas au sensible, au contraire, elle s'éloigne du sensible. Donc petit 2, elle n'utilise pas le sensible, au contraire, elle s'en détourne. Petit 3, elle ne prend pas ses hypothèses comme des principes de raisonnement. C'est-à-dire que elle part, ce sont des points de départ pour aller vers des principes plus élevés et non des points de départ pour aller vers des cas particuliers comme c'est le cas dans la démonstration. Et petit 4, elle remonte vers des principes supérieurs, plus généraux, jusqu'au premier principe qui est le bien, alors que la connaissance raisonnée, elle redescend vers le particulier. Ma question, elle, s'intéresse à Glaucon. Si vous lisez la ligne 115, il nous dit que, il comprend un peu, hein, un peu mieux peut-être que tout à l'heure, mais il est dans un état qui est peut-être le vôtre, hein, et très certainement le vôtre, qui en partie le mien aussi, c'est normal, c'est difficile. Donc il est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la surcharge cognitive. Et donc il a le sentiment qu'on éprouve quand on ne comprend pas bien quelque chose et que tout ça est très très lourd à digérer. Ça va expliquer la suite de la République et l'allégorie de la caverne qui a une fonction pédagogique. Le but, c'est de faire digérer ça. Sokrate a commencé par l'exposé abstrait de sa théorie de la connaissance et l'allégorie de la caverne, ça permettra de donner une vision un petit peu plus claire ou d'essayer de clarifier cette théorie de la connaissance. Là, on doit voir la qualité de pédagogue ou en tout cas la volonté d'être pédagogue de la part de Socrate. Le pédagogue, il explique et quand il voit que son élève a du mal, il va chercher d'autres moyens de passer par d'autres voies pour faire comprendre ce qui n'a pas été compris du premier coup. Donc, la pédagogie, ça ne doit pas se contenter de répéter, mais essayer de trouver d'autres moyens pour donner l'accès à quelqu'un à la connaissance. Donc, toute la fin du texte, là, à partir de la ligne 115, ça consiste à faire un résumé. Hein. En gros, ça définit les acquis de Glaucon qui arrive à faire un résumé, à voir au moins quelle est la hiérarchie entre les différents types de connaissances. Et donc il nous dit dans sa réplique à partir de la ligne 115 ce qu'il a compris, à savoir que la connaissance raisonnée qu'on a à travers les mathématiques, c'est en quelque sorte le pont entre le monde sensible et la connaissance pure, l'intelligence pure, qui, elle, se passe complètement du sensible. Et la dernière réplique de Socrate va résumer quels sont les 4 degrés de connaissance avant de passer à l'allégorie de la caverne, donc récit pédagogique permettant de mieux ancrer ces éléments dans la tête de son élève Glaucon. Et c'est pourquoi je vous demandais à la dernière question, question M, ligne 120 à 126, quels sont les 4 degrés de la connaissance, du plus bas degré de connaissance au plus haut degré? Et il s'agit donc là évidemment de résumer hein, l'ensemble de manière très schématique. Nous avons donc premier degré de la connaissance par les images, la connaissance des images des objets et c'est l'imagination. Deuxième degré de connaissance, c'est la croyance qui repose sur l'expérience et la seule expérience du monde sensible. Ces deux premiers degrés, ce sont des opinions, ça fait partie de la grande famille de l'opinion. Ensuite, on passe à la science, c'est-à-dire la connaissance de l'intelligible. Donc, dans la grande famille de la science, vous avez 2 degrés. Le degré numéro 3, du coup, dans l'échelle globale, c'est la connaissance raisonnée, qui repose sur la démonstration et la démarche hypothético-déductive. Et ensuite, vous avez le quatrième niveau, l'intelligence pure, qui passe par la dialectique. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai passé une partie de ma réponse de la diapo 11, puisque je vous avais fait un exemple de démonstration classique hein, à partir du théorème de Pythagore. Il me restait à tenter un exemple de dialectique. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu moins fréquent. Donc, j'ai essayé de faire un exemple d'utilisation de la dialectique par rapport à l'idée de beauté. Comment définir l'idée de beauté? Je pars de cette idée que il y a quelque chose comme de la beauté, et ça me vient en fait de mon expérience. Il y a plein de choses belles, et le fait de voir une chose belle, deux choses belles, trois choses belles, eh bien, ça me donne l'idée qu'il y a quelque chose comme la beauté. La beauté étant une idée que je tire à partir de cette expérience des choses belles. Mais si je cherche à savoir ce que c'est que cette beauté, il va falloir que j'oublie ces belles choses. Il va falloir que j'oublie les exemples concrets pour élever mon niveau d'abstraction. Ça, c'est le principe de la dialectique. Je vais aller vers le plus général. Ça va me permettre de définir le beau en utilisant d'autres idées. Et donc, je vais associer le beau à l'idée qui correspond au sentiment que une chose belle me fait éprouver. Que me fait éprouver la chose belle? Elle me fait éprouver du plaisir. Donc, le beau, la beauté, est associée au plaisir. La beauté, c'est ce qui produit un sentiment de plaisir. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il y a différents types de plaisir. Donc là, je vais faire une distinction entre, à l'intérieur de l'idée de plaisir, je vais distinguer le plaisir qui est lié au beau et le plaisir qui est lié au bon. Par exemple, quand je mange un bon éclair au chocolat, ça produit un plaisir qui est un plaisir du corps. Donc, c'est bon pour mon corps. Et le plaisir, c'est ce sentiment de ce qui est bon pour mon corps. Mais si je vois un beau tableau, que je reste devant longtemps, que je le contemple, le plaisir que j'éprouve, ça n'est pas le plaisir du corps, mais c'est le plaisir de mon âme. Donc, ça me fait distinguer deux types de plaisir, plaisir du corps et plaisir de l'âme. Je vais aller plus loin dans cette distinction. Le bon, il se produit quand on consomme une chose bonne. Je consomme mon éclair au chocolat. Et par conséquent, ma chose disparaît. Alors que quand je contemple une chose belle, cette chose belle, elle est à distance de moi. Je ne peux pas dire que je la consomme. Je ne la fais pas disparaître. Elle reste et elle reste en dehors de moi et je peux continuer à la contempler. Donc, le plaisir qui est lié au bon, il est éphémère. Il est éphémère comme le corps. Alors que le plaisir qui est lié au beau, il est éternel. Il est éternel comme les idées et comme l'âme, puisque en fait, le beau, c'est le plaisir que prend l'âme à la contemplation des idées. Et enfin, le beau, si je remonte jusqu'au premier principe, il est lié au bien, puisqu'il produit le bien de l'âme. Et on sait, vous savez maintenant que pour Platon, in fine, c'est-à-dire au bout du bout, au final, le premier principe, c'est le bien. Toutes les choses, toutes les idées participent de cette idée de bien qui produit toutes les choses et qui fait que toutes les choses sont bonnes et sont bonnes parce qu'elles existent. Bon, nous arrivons donc à la fin de ce cours qui était le plus long parce que c'était le passage le plus long hein, en termes de quantité, mais c'est aussi celui qui est le plus difficile des trois passages de la République, de la fin du livre 6 et du début du livre 7. On va passer dans le cours numéro 5 à l'allégorie de la caverne. Allégorie de la caverne qui est censée éclairer tout ce qu'on vient de dire. Donc, si tout n'est pas absolument clair, le but, normalement, de cette allégorie de la caverne, c'est de vous aider à mieux comprendre ce qui vient d'être fait, de la même manière que Socrate essaye, à travers cette allégorie, de mieux faire comprendre à Glaucon cette théorie abstraite de la connaissance. À très bientôt, donc.